Je voulais d'abord remercier évidemment le Rav Einstein et je remercie vraiment tous ceux qui sont venus. Je suis vraiment très très ému et vraiment très angoissé de donner ce cours cette conférence. Et moi-même, je me sens vraiment très petit par rapport à tout l'auditoire qui est ici. J'ai jamais étudié à l'université pour de bon. Réellement, j'ai jamais été dans une université en bonne et due forme. Donc, je suis très vraiment. Je ne sais pas comment expliquer. Et dans ce cours-là, je vais peut-être dans une certaine partie, en tous les cas, je vais parler de choses que je ne connais pas du tout. Mais pour moi, ça m'intéresse de lancer des idées. Et je connais une prof de philosophie qui m'a dit « J'enseigne très bien la philosophie justement parce que j'y ai jamais rien compris. » Et c'est vrai. Et ça veut dire d'une certaine manière, en fait, quand quelqu'un il fait pas partie, ça veut dire il a une vision complètement extérieure et il va pas. Et ça veut dire il parle de quelque chose qu'il connaît pas. C'est peut-être là où justement il peut peut-être donner des idées qui peuvent paraître intéressantes. Donc moi, je voulais simplement vous dire que tout ce que je vais faire, c'est suggérer des choses. Je ne suis pas du tout un spécialiste, je fais allusion vraiment à ce que je vais parler dans la deuxième partie en particulier, concernant les mathématiques et la logique et les sciences, etc. Mais je ne sais pas pour quelle raison, je tenais à cœur d'en parler. C'est pas une réaction, mais c'est un peu pour rebondir sur ce que Jean-Michel Chalansky a parlé en fait dans les conférences, etc. C'est quelque chose vraiment, je vais rentrer dans un domaine vraiment que je ne connais pas et que je ne suis pas du tout expert dedans. Ouais. C'est simplement le dire.
Non, grâce à vous, c'est ma faute.
Non, pas du tout. Mais bon, voilà, c'est tout. Maintenant, pour parler en fait simplement, je vais pas faire des longues introductions. N'hésitez pas à me faire répéter. Je sais que je parle pas très clairement. Mais si vous comprenez pas quelque chose ou si vous avez des questions, allez-y. À part ça, une autre chose que je suis en train de dire, je sais qu'on m'avait dit que c'était pas dans l'habitude en fait de ces séminaires d'enregistrer, ou je sais bien que moi j'ai écouté des enregistrements, donc je sais pas exactement quelle est vraiment la situation au niveau des enregistrements et des questions et des choses pareilles, mais si vous voulez que je coupe ou des choses pareilles, vous me direz et je couperai quoi qu'il arrive des choses pareilles. 5 pour dire ça. Pour l'instant, j'enregistre. Voilà, c'est tout. L'intervention que je vais faire, elle est divisée en 3 parties. La première, en réalité, donc principalement, c'est sûr, donc c'est une réaction sur le livre de Danny Trom sur l'axiomatique du gardien. Ça veut dire sur le parti, en fait, l'axiomatique du gardien dans le livre de Danny Trom, principalement. C'est sur ça que je vais parler. Et pour moi, dans la première partie, je vais en fait faire comme une sorte de je vais extrapoler en fait c'est la théorie qu'il a donnée sur un point de vue théologique. Dans la théologie du Talmud, est-ce que cette axiomatique du gardien, elle peut être extrapolée en fait à quelque chose d'autre que le rapport à la politique? C'est ça en fait, c'est ce que je vais parler, c'est ce dont j'ai envie de parler dans la première partie. Pour dire en deux mots, d'une manière en fait presque pour schématiser, pour moi en fait Danny Trom, en parlant de l'axiomatique du gardien, c'est exactement un peu comme Christophe Colomb qui pensait avoir découvert un nouveau chemin vers les Indes alors qu'en fait il a découvert un nouveau continent, et que à mon avis cette découverte elle est énorme au point de vue théologique, c'est quelque chose de gigantesque, beaucoup plus grand que ce qui est marqué à mon avis, ce qui est dans le livre. Et je vais revenir sur ça. En tous les cas, ça va être la première partie de l'intervention. La deuxième partie, la plus risquée, ça sera quand même un lien, puisque j'ai essayé, en fait, j'avais voulu, en fait, parler de toutes les conférences ensemble. Ça veut dire de faire comme une sorte de cours qui permettrait, en fait, de revenir après sur différents points qui avaient été dits dans tous les séminaires. Donc, c'est sûr que principalement la deuxième partie, elle va parler en fait sur le lien entre la philosophie et la logique, principalement sur ce que M. Chalansky avait parlé, sur le rapport entre l'universel et le particulier, etc. C'est un point qui avait été abordé dans la philosophie des sciences. C'est là où vraiment je me suis vraiment risqué dans quelque chose vraiment comme ça. J'ai voulu suivre une intuition en me disant, comme il y a des mathématiciens ici, il n'y a que eux qui pourront savoir si c'est n'importe quoi ou si c'est vrai. Donc c'est une intuition qui sera à prendre ou à laisser. Donc la troisième partie, ça sera vraiment un retour en fait sur le livre de Danny Trom, un peu un retour aussi sur ce que le Rav Einstein il a parlé. Cette fois-ci vraiment sur le point de vue de la politique juive en exil et de toute cette idée de la Chadlanout. Puisqu'en fait, Danny Trom, à travers toutes les différentes conférences qui ont été dites, il a dit « j'ai pas trouvé en fait de source à ça dans le Talmud, etc. » Et il voyait pas en fait dans le Talmud réellement quelque chose qui parlait de ça. Alors que bon, voilà, donc en fait, j'ai simplement repris des passages du Talmud qui parlent justement de cette histoire de la Chadvanout. Exactement, comment est-ce que, a priori, quelle théorie on pourrait sortir en fait de ces passages du Talmud concernant c'est tout le livre de Dan Isram. Mais là, vraiment, à proprement parler, sur l'idée de la politique, qui était vraiment le sujet principal du cours. Ouais. Donc c'est ça, en fait, les trois parties du cours. Donc pour revenir, en fait, donc la première partie, donc c'est sur l'axiomatique du gardien. Donc je ne sais pas comment l'introduire pour dire vraiment quelque chose, pour commencer, disons, pour donner une idée principale. L'idée principale que je veux développer là-dedans, c'est la suivante. C'est pour parler en fait de l'idée de la transcendance et de l'immanence. Cette question, on va dire théologique, en réalité pour parler en fait du rapport en fait de l'homme avec Dieu, on va dire quelque chose comme ça, on peut parler, c'est-à-dire l'idée principale qui a été développée par exemple dans le Nefesh HaHaim de Rav Chaim de Volozhin et par d'autres auteurs, c'est à chaque fois l'idée de dire qu'en fait on peut faire un avec Dieu. Ça veut dire Dieu il est dans notre âme. On peut faire un avec Dieu, et c'est à travers cette unité, ou c'est en s'unifiant à Dieu, qu'on pourrait, en fait, envisager l'idée de la prière, l'idée, en fait, l'idée du libre arbitre, l'idée, en fait, le fait d'avoir un impact dans le monde, etc., etc. En fait, cette idée, c'est-à-dire cette vision, qui est la vision, on va dire, voilà, qui est soutenue dans plein de livres, etc., elle fonctionne, on va dire. Mais en fait, elle m'a toujours paru bizarre, c'est-à-dire qu'elle m'a paru en porte-à-faux avec les textes même de la prière, du rituel. Principalement, quand on regarde en fait, puisque c'est le début de Rosh Chodesh Elul, mais quand on regarde le rituel de prière de Rosh Hashanah, surtout dans le texte Ashkenaz, on sent vraiment qu'il y a à chaque fois une sorte de mise en opposition entre, d'un côté, la royauté divine et d'un autre côté la royauté humaine. C'est comme s'il y aurait deux rois qui s'affrontent. Ce sont des textes qui ont été écrits par les auteurs ashkénazes du Moyen Âge, qui ont été introduits donc dans la prière de Rosh Hashanah. Et donc il y a tous ces piyutim qui parlent de Melech Elyon, le roi suprême, et le roi en fait inférieur. Et à chaque fois donc dans ces piyut, à chaque fois que, mais c'est pas le seul, dans toute la prière de Rosh Hashanah, on retrouve dans tous les cas dans les textes ashkénazes ce dialogue en fait et cette antinomie entre soit c'est l'homme qui a le pouvoir, soit c'est Dieu qui a le pouvoir. Et que en fait à Rosh Hashanah, toute l'idée elle est de dire voilà Dieu c'est le roi et en fait c'est comme si l'homme il laissait en fait son pouvoir à Dieu, d'une certaine manière. Et dans cette histoire-là, donc il n'y a pas de retour, il n'y a pas vraiment d'idée d'unité entre l'homme et Dieu dans la prière. C'est-à-dire ça c'est particulièrement, c'est-à-dire c'est pas comme si on se parlait à soi-même ou comme si on se sentait habité par Dieu lorsqu'on prie. Au contraire, dans la prière, en tous les cas dans le judaïsme, il y a une sorte d'axiomatique, de dynamique, de contradiction. Et surtout dans la prière de Rosh Hashanah, c'est là où c'est le plus évident, de Yom Kippour, dans le rituel ashkénaze. Comme David, j'ai pas cité tout ça, évidemment, à chaque fois j'amène toujours des textes qui ont peu de rapport avec ce que je veux parler, mais c'est pas une spécialité. C'est parce qu'en fait, je change d'avis à chaque fois. C'est-à-dire que quand j'ai préparé le cours ce matin, je me suis dit, c'est-à-dire le cours tel qu'il l'avait préparé, en fait, j'avais préparé il y a un mois avant de partir en France, en sachant que comme j'allais être en vacances, j'allais pas pouvoir vraiment travailler dessus. Et ensuite, Quand je me suis dit bon maintenant c'est le matin, il faut relire avant de donner le cours, je me suis dit mince, bon j'arrivais même plus à comprendre qu'est-ce que je voulais dire, ce qui m'arrive toujours. Donc là je me suis dit bon là, j'ai recentré l'idée, enfin c'est comme ça qu'elle m'a paru ce matin en la relisant. Et donc c'est pour ça que j'ai pas ramené ici des textes, en fait j'avais même pas accès à ces textes là en fait du rituel ashkénaze, mais vous allez pouvoir les lire bientôt dans un mois à Rosh Hashanah si vous allez à la synagogue, et vous allez voir en fait que ça paraît assez clairement qu'il y a en fait une opposition qui est faite entre d'un côté Dieu et l'homme, et pas du tout en fait une unification qui se passerait à travers la prière où Dieu il vient habiter l'homme et il ferait faire un avec lui. Et donc tout ça m'a fait penser en fait à l'idée au livre de Dan Isram qui a parlé en fait de l'axiomatique du gardien, de cette idée en fait. Donc pour lui en réalité dans son livre il la résume en fait simplement à une idée du juif en exil, c'est-à-dire de comment est-ce que Dieu, c'est-à-dire comment est-ce que le judaïsme il peut voir à travers l'exil, enfin à travers le gouvernement dans lequel il est duquel il est tributaire, en fait la main de Dieu ou la voix de Dieu. Et donc en fait ça expliquerait en fait cette opposition, cette dialectique, cette axiomatique qu'il y aurait entre le roi Ahasuéros et le roi Tout-Puissant. Et donc en fait, donc dans le livre, je pense que il s'arrête là. C'est-à-dire que pour lui, c'est une question de simplement comment en fait envisager la politique en exil, comment envisager le fait qu'on puisse avoir un impact, dialoguer avec un gouvernement qui est extérieur et ne pas avoir comme quelque chose qui se mettrait en opposition au décret divin de nous mettre en exil. Mais donc, à mon avis, pour moi, il y avait quelque chose de très facile à faire. C'est pour ça que je dis que c'est très étonnant. C'est un peu comme Christophe Colomb, qu'il suffisait, en fait, pour moi, à mon avis, c'est important d'élargir l'idée et pas simplement de la limiter, en fait, au cadre politique, mais de l'élargir complètement au rapport, en fait, à Dieu, que ce soit, en fait, dans la prière, dans l'idée du libre arbitre, du déterminisme, etc., où, en fait, c'est cette axiomatique qui serait entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire qu'il y aurait en fait une sorte de contradiction à savoir est-ce que l'homme il a un impact sur l'histoire ou est-ce qu'il n'a pas un impact sur l'histoire. En fait, ça serait une sorte de relation qu'on retrouverait en fait dans la vie de tous les jours, dans le rapport en fait au quotidien. Qu'en fait, ce que le Midrash il a voulu dire en disant Amelach Ahasuerosh, le roi Ahasuerosh ou c'est Melach Malchim Melachim, c'était en fait, et ce qui est voilé en fait dans la Megillat Esther, dans le rouleau d'Esther, ça serait une manière en fait d'envisager la manière dont en fait Dieu il intervient dans la nature et l'homme aussi, et comment est-ce que en fait on pourrait marier en fait ce double impact d'un côté d'une volonté divine qui s'applique ou qui se révèle dans le monde, et d'un autre côté la volonté de l'homme qui voudrait lui aussi avoir un impact dessus. Et que donc en fait c'est ça l'idée principale, c'est justement de vouloir simplement élargir cette idée. Et voir en fait à quoi ça nous mène si jamais on essaye de faire ça. Entre parenthèses, j'ai entendu même dans un des séminaires qu'il y a un moment il y a Donald Trump qui a dit oui dans les mitzvot c'est exactement la même chose. Et après je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu dans le séminaire quelqu'un a posé une autre question etc. Et puis c'est parti complètement. Donc je me dis ah, il l'a dit. Et puis après j'ai vu non c'était parti sur une autre tangente etc. Donc il n'y avait pas eu cet élargissement. Enfin c'est rien que pour dire que en fait l'idée elle était même pas venue de moi, elle est venue vraiment de l'écoute de la conférence, enfin du séminaire lui-même. Il y a eu un moment où ça a sauté, je ne répète pas à vous dire exactement où et quand, mais il y a un moment où l'idée elle a été lancée et puis elle a été rejetée. Ou en tous les cas, je vous donnerai la référence, mais à un moment, en fait, il y a eu cette bifurcation, elle a pu être prise et puis elle a été, en fait, il y a eu un recentrage sur le rapport à la politique. Bref, c'est une parenthèse. Donc maintenant, donc en fait, pour expliquer donc ce que je voudrais en fait, donc j'ai pris des sources et on va essayer de travailler un peu sur ça, enfin de voir comment est-ce qu'on peut en fait élargir cette idée et comprendre ça. Donc en réalité, donc parce que c'est une grande question, la première question de base est de savoir comment est-ce que le Talmud il se mesure en fait à l'idée du déterminisme. D'accord ? C'est-à-dire que en fait est-ce que le Talmud croit au libre arbitre ou pas, ou en quelle mesure il y croirait ou pas. Donc j'ai pas envie de faire un topo là-dessus, mais disons, on va dire en deux mots l'idée simpliste, la lecture simpliste, c'est l'idée de Maïmonide, que comme il y voit des contradictions là-dedans, donc il dit simplement c'est une discussion. C'est Maïmonide dans le Guide des Égarés qui dit oui, en fait, à chaque fois qu'il va avoir quelque chose qui dépend du Mazal, il dit ben voilà, ce type-là qui croit au Mazal et qui ne croit pas qu'il y a une raison dans les mitzvot, etc., en fait, il ne croit pas au libre-arbitre, il y a un avis tel que, par exemple, quand il s'est repris par Rabbi Elchanan Wasserman, dans le Koretz Yarot, entre parenthèses, bon ça je ne peux pas citer les trucs, mais c'est-à-dire que, par exemple, quand la Mishnah, la Gemara, dit, voilà, le Shidour, en fait, ça veut dire le mariage, c'est un mazal, etc., Maïmonide ne ramène pas ça, il est contre cette idée parce qu'il dit en fait il n'y a pas de prédestination dans le mariage, et celui qui a cet avis là en fait c'est l'avis de celui qui pense qu'il n'y a pas de libre arbitre. Quand il va voir à chaque fois qu'il va voir le Talmud, il y a plein de passages du Talmud qui ramène à chaque fois le Mazal, comme on le voit à plein d'endroits, et à chaque fois donc Maïmonide va dire oui, en fait, comme c'est une discussion dans la Gemara, dans Shabbat, ou En Mazal et Israël, c'est-à-dire après avoir cité tout un tas d'avis qui pensent que tout dépend du Mazal, le Talmud y ramène à la fin un avis qui est l'avis de Rabbi Yohanan qui dit que En Mazal et Israël, donc si je veux Maïmonide, pour lui c'est facile de dire en fait voilà, Tout dépend de cette discussion. C'est un avis, en fait, c'est une discussion dans le Talmud. Est-ce qu'il y a le libre arbitre ou est-ce que tout est déterminé? Et donc, il dit, moi, je pense que c'est l'avis qui pense le libre arbitre qui est le principal. Et donc, il décide d'interpréter toute la Torah en prenant cet avis-là. Mais pour lui, c'est comme ça qu'il interprète la chose. Il dit, c'est une discussion et c'est terminé. Bon, évidemment, c'est une réponse difficile parce qu'en fait, la discussion, elle n'est pas claire. Si vous voulez, d'une manière méthodologique, c'est-à-dire que c'est très difficile de dire qu'en fait, voilà, pour expliquer en deux mots cette manière d'étudier, cette manière de réfléchir, c'est une manière difficile. Je m'excuse encore de partir dans un truc un peu, voilà, de la méthodologie, mais si vous voulez, dans le Talmud, il y a beaucoup de contradictions. Voilà. La manière de dire, en fait, voilà, c'est plusieurs avis, et l'avis qui a parlé dans le traité, on va dire, Shabbat, c'est pas l'avis qui a parlé dans le traité de Berachot, par exemple, et qu'en fait, les auteurs, en fait, du traité de Shabbat et les auteurs du traité de Berachot sont pas les mêmes, et se sont jamais connus, et donc c'est pour ça qu'il y a des discussions. C'est une manière d'analyser le Talmud, on va dire, qu'on utilise vraiment en cas de force majeure. C'est-à-dire, en fait, c'est la manière d'utiliser pour dire en deux mots, c'est comme ça que les Juifs réformés, ils étudient le Talmud, ce qui leur permet à chaque fois ça permet grâce à ça d'ouvrir vraiment le Talmud au maximum. Puisque ici, on n'a plus besoin de répondre aux contradictions, donc on peut à chaque fois créer des nouveaux avis et dire, ben voilà, c'est marqué comme ça, etc., etc. Donc, en fait, cette méthode, elle est utilisée déjà par les Juifs du Moyen-Âge, mais vraiment, c'est la... Ça veut dire, au niveau méthodologique, quand on est rabbin, c'est vraiment un truc de loser, quoi. C'est vraiment, je sais pas comment le dire, c'est vraiment quand on n'a plus rien à dire, qu'on n'a plus aucune carte à jouer, qu'on dit ça. Parce qu'en fait, on doit, c'est-à-dire, selon la tradition, les auteurs du Talmud, ils se sont tous réunis pendant 7 ans, et il a été compilé par deux auteurs, principalement, c'est-à-dire que tout le monde était plusieurs auteurs, en tous les cas, les rabbins qui ont participé à la dernière génération, ils se sont tous réunis, ils ont compilé le Talmud ensemble. Donc normalement, s'il y a des contradictions, il doit y avoir en fait des autres manières de les répondre que de dire qu'en fait c'est quelqu'un qui a dit ça et l'autre qui a dit ça, et surtout quand la discussion elle est... Donc ce qui veut dire, c'est qu'il y a des discussions dans le Talmud, mais si jamais dans le passage même le deuxième avis n'est pas rapporté, c'est difficile d'importer un avis qui... C'est-à-dire que par exemple qu'il y aura un passage du Talmud qui semble dire clairement que tout est déterminé sans apporter quelqu'un qui discute, et c'est très difficile de dire que voilà, il y a un autre passage qui dirait qu'en fait tout dépend du libre arbitre sans apporter de personne qui discute. C'est très difficile de dire ouais, c'est deux avis, puisque si c'était deux avis, ils auraient dû être apportés côte à côte, et le Talmud, il aurait dû faire mention de cette discussion. Donc c'est pour ça, donc c'est de dire que c'est une manière vraiment c'est-à-dire on fait ça quand on n'a pas le choix, quoi. Mais Maïmonide, a priori, comme lui, en fait, c'est pour ça que tous les c'est simplement de la technique. Je m'excuse de cette digression, mais c'est-à-dire que Maïmonide, il dit ça, il faut simplement le mentionner. C'est très difficile de commencer à parler du sujet sans mentionner personne. Mais disons, Maïmonide, lui, il dit c'est une discussion. C'est critiqué par tous les auteurs contemporains de Maïmonide parce que voilà, c'est pas une manière très orthodoxe, on va dire, de réfléchir, et c'est difficile en fait de dire ça. C'est dire que c'est doha, comme on dit en hébreu, je sais pas comment dire ça en français, c'est difficile, on va dire, voilà, c'est difficile de penser de dire cette réponse-là. Donc grosso modo, ça pousserait tout ça à dire qu'en fait le rapport en fait entre le déterminisme et le libre arbitre dans le Talmud, et le rapport avec le mazal et toutes ces choses-là, ça serait à prendre en fait d'une manière plus complexe. Mais qui reste à expliquer. Donc, en fait, pour moi, à mon avis, donc ça reste comme une sorte de mystère. Donc, pour moi, en fait, dans l'idée de Daniel Trump de l'axiomatique du gardien, il y aurait les clés, justement, pour répondre à toutes ces contradictions et pour donner une lecture, en fait, possible du Talmud. Comme je vous ai dit, si on reprend, en fait, l'histoire, si on reprenait cette histoire, cette lecture de la Megillah avec le roi Ahasuerosh, le roi, etc., ça expliquerait, en fait, ça donnerait une ouverture pour comprendre comment est-ce que le Talmud, il envisage vraiment le rapport au libre arbitre et au déterminisme. Donc maintenant, comment ça fonctionne? Donc, je vais essayer d'expliquer ça, je vais essayer de dire une première chose. Donc je vais aller simplement par touches successives. Donc j'ai ramené le premier texte que j'ai ramené, donc c'est la Gemara dans Shabbat, qui est excessivement connu, qui parle du Mazal, qui fait de l'astrologie, qui est très longue, qui est très ouverte sur l'idée du déterminisme, en disant que tout dépend en fait du Mazal, etc., etc. En disant chaque jour, chacun, qu'est-ce qu'il va devenir suivant le jour, le jour où il est né, puis ensuite par rapport à l'heure qu'il est né, etc. C'est en soi très difficile comme idée, tu vois, puisqu'en fait, ça semble contredire les versets de la Torah, puisque la Torah, elle semble dire, en fait, si vous faites les mitzvot, si vous faites le bien, alors vous serez béni, si vous faites le mal, vous serez maudit, etc. Alors que le Talmud, il semble aller comme ça d'une manière très longue, en disant, non, en fait, c'est si quelqu'un il devient riche, c'est parce qu'il est né le mardi à telle heure, et si jamais, par exemple, quelqu'un devient intelligent, c'est parce qu'il est né le mercredi à telle heure, et qu'en fait, tout dépend, en fait, d'une prédestination qui a été donnée, en fait, à l'heure de la naissance. Il n'y a pas vraiment le libre arbitre, il n'aurait pas en fait d'influence là-dedans. Il n'y aurait pas vraiment non plus d'impact sur la moralité de la personne, de la part de la moralité de la personne. Il y a plusieurs endroits où on trouve ça dans le Talmud, mais l'Agma dans Shabbat c'est la plus longue. La raison pour laquelle j'ai ramené cet Agma dans Shabbat principalement, c'est parce qu'en fait il y a une ligne à l'intérieur que je ne sais même pas si je pourrais la retrouver ici. C'est lorsque le Talmud il parle de quelqu'un qui est on peut la retrouver en anglais et je la trouve assez facilement. C'est dans la deuxième photocopie où l'Agma elle parle de celui qui est né sous l'influence de Mercure. Et c'est-à-dire que donc l'Agma, je vais le lire en anglais, hein, c'est parce que le temps que je le retrouve dans les Ouais, je peux lire aussi en hébreu si j'arrive à le retrouver. Dans le texte de Shabbat, mais je saute, c'est-à-dire que je vais pas passer en fait par deuxième page. Je passe directement à la deuxième page. Et en fait, donc, je pense que je sais même pas. Bon, je vais le lire en anglais. Hein, j'en fiche. Je le traduis en français, mais en tous les cas, si quelqu'un est né sous l'influence de Mercure, et donc ça sera un homme intelligent, on va dire enlightened, je ne sais pas comment traduire, ça veut dire quelqu'un qui sera éclairé, et voilà, et aussi qui sera un expert. Pourquoi? Mais c'est la deuxième partie, c'est l'explication pour moi qui vraiment dans cette partie-là est vraiment le pire. C'est parce qu'on dit Mercure, la traduction en anglais, elle a vraiment été aussi tronquée. Dans le texte en hébreu, il est marqué, mais je ne sais même pas s'il est dedans. En tout cas, si vous regardez le texte en hébreu, on dit parce qu'on dit que Mercure, c'est le sofer. Ouais, c'est, en fait, ils ont changé la garça. Parce qu'on dit, la vraie lecture, enfin, je l'ai en fait dans le texte en araméen, c'est la troisième ligne, il est marqué Man de Bekochav, Yegevar Nahir, Vehakim, Mishum de Safra. En fait, la vraie garça d'origine, c'est des Malkahu. C'est le sofer du Meler, c'est-à-dire Safra des Malka, c'est pas Safra des Hamas. Je sais pas qui c'est qui a. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est comme ça que Rachid, en tous les cas, il a la guerre, ça, vous avez qu'à vérifier après. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on dit celui qui est né dans Mercure, il sera intelligent. Pourquoi? Parce que c'est le scribe du roi. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est le scribe du roi? C'est-à-dire qu'en fait, donc le Talmud veut dire en fait, le soleil, c'est le roi. C'est comme Jupiter, on va dire, en France. Mercure, c'est celui qui est juste à côté du roi, donc c'est celui qui écrit, qui a la planète la plus proche du Soleil. Donc tout celui, en fait, qui sera né sous l'influence de Mercure, et en fait, il sera rapide d'esprit, il comprendra les choses très rapidement. Grosso modo, c'est ça le sens de l'histoire. Mais l'idée de derrière, ce qui est difficile à comprendre cette histoire-là, c'est que là, on fait vraiment allusion à des choses vraiment d'idolâtrie. C'est vraiment plus maintenant simplement du mazal, quelque chose qui serait lié en fait, veut dire de l'ordre. Tant qu'on parle du mazal comme étant une influence astrale, on parle vraiment, on va dire que voilà, Dieu, il a créé le monde et qu'en fait, il a créé des constellations, que ces constellations, elles ont une influence sur nous, etc. On n'est pas encore en fait dans. Ça veut dire, ça choque pas, on pourrait dire. On peut dire, voilà, Dieu, il a créé le monde de cette manière. Mais une fois qu'on va dire, oui, en fait, mais le soleil, c'est le roi, et Mercure, c'est la planète la plus proche du roi, donc c'est la planète la plus rapide, c'est-à-dire celui qui va naître sous l'influence de cette planète, ça sera un homme intelligent, c'est déjà, en fait, donner comme une sorte de royauté au soleil, ou quelque chose comme ça. C'est enlever la royauté de Dieu, carrément. Et c'est quelque chose qui choque réellement quand de la part du Talmud de dire une chose pareille, a priori. C'est pareil, quelque chose de difficile. Il y a plein d'autres passages, je pense, que j'ai ramenés, ou d'autres que j'ai pas ramenés, en tous les cas, où l'Agmara dit simplement à chaque fois que tout dépend du mazal. Ça veut dire l'Agmara dans Moed Katan, qui dit que la longévité de la vie, le nombre d'enfants qu'on va avoir, la richesse, ça dépend pas des mérites, ça dépend du mazal. Elle ramène des exemples de très grands rabbins qui étaient soit très riches, soit très pauvres. Et elle dit, en fait, ça c'est l'Agmara dans Moed Katan, elle dit, on voit bien, en fait, que ça dépend pas des mérites, ça dépend du mazal, des choses pareilles. Et moi, ce qui m'intéresse, pour revenir dans cette, m'excuse de m'éloigner de ça, mais enfin voilà, c'est un des premiers passages, c'était simplement pour donner une première idée de toute cette histoire. Maintenant, pour continuer sur un texte par contre que je n'ai pas ramené, c'est que là où on voit le premier dédoublement de Dieu, puisqu'il faut parler d'axiomatique, il y a un dédoublement de Dieu, c'est dans le livre de Job. Pourquoi ? Parce que dans le livre de Job, il y a un personnage qui apparaît, c'est le Satan. Et le Satan, il apparaît dans les livres de Job comme en fait quelqu'un qui discute avec Dieu et qui a un pouvoir par rapport à Dieu, qui serait comme une sorte d'alter ego. Et voilà, ils discutent ensemble, ils disent je vais pas l'envoyer, et il lui donne le droit de faire souffrir Job et compagnie. Mais en tous les cas, c'est-à-dire que le Satan apparaît dans le livre de Job, et c'est le premier, on va dire, ça serait le premier déjà, ça serait encore un autre dédoublement de Dieu qui apparaît dans la Bible, cette fois-ci d'une manière explicite. Quand on demande, ça veut dire avec les critiques bibliques, quand on leur demande comment ça se fait que Job, il apparaît dans le, ça veut dire le Satan apparaît dans le livre de Job, la manière d'expliquer de tout le monde, ça veut dire des auteurs non religieux, c'est de dire oui, en fait, les Juifs étaient en exil, ils souffraient énormément, et donc dire que la souffrance, elle venait de Dieu, c'était insupportable de dire ça au peuple. Donc il a fallu écrire ce livre qui, justement, remettait tout, en fait, sur le Satan, sur le diable qui est devenu, en fait, une sorte de dédoublement de Dieu. Mais, quoi qu'il arrive, ça veut dire que l'interprétation, elle est sûrement fausse, puisque dans la vision orthodoxe, nous, on dit que tout est venu par prophétie, etc. En tous les cas, on voit en tous les cas un dédoublement de Dieu, encore déjà, même dans la Bible, c'est-à-dire qui paraît étonnant, qui paraît étonnant et que sur lequel il faut s'interroger. Voilà. Maintenant, je donne maintenant, comme je vous dis, j'avance par étapes, par touches, pour faire comme une sorte de puzzle, en espérant qu'à la fin, ça va avoir une image qui va apparaître. Mais une autre idée qui a priori peut paraître ne pas coïncider, mais qui est aussi simple, quand on revient en fait maintenant sur l'idée de la prédestination et du libre arbitre. Donc, en réalité, donc il y a deux exemples qui sont très très connus, dans la Bible, où on voit en fait une sorte de quelque chose qui était prédestiné, qui était prévu à l'avance, mais qui pouvait en même temps être changé d'une certaine manière. Alors comment ça fonctionne? Le premier exemple que j'ai donné, c'est l'histoire du sang avec les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un verset dans l'Exode que j'ai ramené, ouais. C'est-à-dire que donc je lis le verset en hébreu avec la traduction. Donc ça c'est Pharaon qui parle aux enfants d'Israël et qui parle à Moshe, il leur dit Vayomer aleihem Yehichen Hashem imachem kasher ashalach etchem betabechem reu kira neged penechem. Ça veut dire Hachem, donc il leur a dit que Hachem soit avec Dieu quand je vous renverrai et vos enfants, mais sachez que le mal est contre vous. Donc en fait là Rashi va expliquer que le mal, en fait c'est pas vrai, qu'est-ce que ça veut dire que le mal est contre vous? Donc il dit en fait qu'il faisait allusion, donc je peux dire Rashi, autant le dire en français, la traduction du rabbinat, car le mal ra est face à vos visages, comme le rend le Targum Unkelos, voyez le mal que vous avez l'intention de me faire se retourne contre vous. J'ai entendu l'explication suivante du Midrash. Il existe une étoile appelée Ra'a, c'est-à-dire c'est un dieu égyptien. Pharaon leur a dit, je sais par mes connaissances astrologiques qu'une étoile va s'avancer à votre rencontre, littéralement devant vous dans le désert, et qu'elle est annonciatrice de sang et de tuerie. Lorsqu'Israël a commis le péché du veau d'or et que le Saint béni soit-il a voulu les tuer, Moshe a dit dans sa prière, pourquoi les Égyptiens diront-ils, c'est pour le mal Ra'a qui les a fait sortir? C'est ce que leur avait dit Pharaon, voyez comme Ra'a est devant vous. Aussitôt, Hachem évoqua le mal Ra'a et le changea le sang dont cette étoile constituait l'emblème en sang de la circoncision. En effet, Yehoshua les a circoncis, et c'est ce que veut dire le texte, j'ai retiré aujourd'hui de dessus de vous la honte de l'Égypte, car il vous disait, nous voyons que du sang sur vous dans le désert. Ça c'est Rashi, l'explication de Rashi, donc pour expliquer en deux mots ce que ça veut dire, c'est que Pharaon, il semble dire aux enfants d'Israël, quand vous sortirez, vous voyez qu'il y a le sang qui est en face de vous, il y a le Ra'a qui est en face de vous, c'est l'étoile du sang, quelque chose comme ça. En fait, donc les Juifs, après la faute du veau d'or, ils avaient été condamnés à mort par Dieu, mais finalement Moshe dit, mais voilà, mais si tu dis ça, et la dynamique est très importante, rappelez-vous de cette dynamique, Moshe va dire, en fait, à Dieu, il va lui dire, mais si tu dis ça, ça veut dire, si vraiment tu les tues, alors le décret que Pharaon avait dit, avait annoncé, en fait, il va vraiment s'accomplir. Alors c'est pour cela qu'on va changer le décret et qu'on ne va pas faire. On va faire au contraire, c'est pour ça que Dieu change d'avis et qu'il dit non, en fait, on va faire accomplir ce décret par le sang de la circoncision. Cette dynamique, elle ressemble beaucoup à la dynamique de la Megillah, où Ahasuéros, il fait un décret, et justement, du fait même qu'il y a le décret, ça ne peut pas s'accomplir, pour une raison ou pour une autre. C'est le fait même que le décret soit justement connu qui fait que le décret ne peut pas s'accomplir. On va revenir à cette dynamique qui est très intéressante, et qui fait qu'en fait, on change le décret sans le changer complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on fait comme dans le cas d'Arrasbosch, finalement, en fait, c'est simplement le décret. Il reste simplement, on change le destinataire du décret. Au lieu que ça soit sur les Juifs, on va dire c'est sur Amalek. Mais ça veut dire, on fait que changer la destination du décret. Mais le décret reste quelque part. C'est-à-dire que la vision de Pharaon, elle est quelque part vraie. C'est puisque le sang de la circoncision, c'est quand même du sang. Il y a même plus que ça. Puisqu'en fait, toute la génération du désert, elle va jamais arriver en Israël, au fond. Donc, c'est encore plus complexe que ce que Rashi il semble expliquer, mais en tous les cas, il y a une idée, c'est pour ça que je dis, il y a une idée, encore une fois, il y a une sorte de dédoublement, c'est-à-dire, il y a l'idée, je connais cette idée, cette pièce du puzzle pour l'instant, qu'on retrouve cette idée, en fait, donc, d'une prédestination, de quelque chose qui aurait été prévu depuis toujours, qu'on ne peut pas changer, mais qui est justement du fait, même qu'on le sait, on peut le changer. Et à la fin, ça s'accomplit quand même, mais différemment, ou d'une certaine manière, on ne sait pas exactement comment. On retrouve le deuxième exemple qui est très connu, c'est l'histoire de Moïse, cette fois-ci, avec l'eau. C'est-à-dire que Pharaon, il avait prévu que Moïse, il devait être puni par l'eau, et c'est pour ça qu'il avait demandé à jeter tous les enfants juifs dans le Nil. Et à la fin, donc, Moïse, il est sauvé des eaux par le panier, mais au fond, à la fin, il est quand même puni par les eaux, c'est-à-dire que c'est quand en fait il y a la révolte à la fin de sa vie que les Juifs demandent de l'eau et qu'ils frappent le rocher au lieu de parler au rocher, donc il est puni par l'eau. Donc là encore, on retrouve un décret qui est en fait inamovible. Ça veut dire, c'est un peu comme le décret d'Ahasuéros. Ça veut dire, on avait décrété en fait que Moïse devait être puni par l'eau. C'était quelque chose qui était écrit d'avance. Même si son nom, c'est justement celui qui est sauvé des eaux, en fait, c'est celui qui va être puni par l'eau. Peut-être même parce que justement, la dynamique axiomatique, c'est ça la véritable chose qui reste à la fin. C'est, on n'est jamais sauvé du sang, on n'est jamais sauvé de l'eau. On est toujours puni par l'eau, puni par le sang. On ne sait pas. Mais en fait, l'axiomatique, elle reste, c'est quelque chose. En fait, ce qui reste, c'est une sorte de dynamique d'axiomatique intéressante. Voilà. Pour l'instant, j'arrête là l'idée. Une autre chose, pour revenir avec le texte de Job que j'avais amené, ce qui est super intéressant aussi, dans le texte de Job, quand on parle du Satan et des punitions qui s'abattent sur Job, c'est que l'idée, en fait, de l'annonce est très importante. C'est-à-dire que quand on regarde, en fait, dans le livre de Job, à chaque fois, quand les punitions, elles s'amènent, elles sont apportées sur Job, à chaque fois, il est marqué « Zé Médaber », et celui-là, il parlait, et voilà que ça arrive. Et Rashi, à chaque fois, comme tous les commentaires, ils disent « Oui, c'est arrivé à cause du fait que ça a été annoncé. » C'est au moment où c'est annoncé que c'est arrivé. Il y a toujours quelque chose qui est lié avec le fait de l'annonce. De que la chose doit être annoncée avant, a priori pour arriver ou pour ne pas arriver, c'est notre histoire. Voilà, c'est ce que, encore voilà une douche, ça veut dire dans le puzzle, une pièce dans le puzzle. Maintenant, je vais continuer. Bon, j'ai ramené sur ça deux petits passages du Talmud que j'ai pensé ce matin que j'ai pas ramené dans les photocopies. Un passage du Talmud, je pense que c'est dans Brachot 55a, où en fait, c'est très court, en fait, ça fait une ligne, je vais le dire à l'oral, en hébreu ça donne comme ça, en arabien plutôt, c'est « Vamar afrizda, chalma bisha, ativuta mistaye, chalma tava, chedvaye, mistaye. » C'est-à-dire, afrizda a dit, un mauvais rêve, la dépression que ça entraîne, c'est en soi son accomplissement. Par contre, un bon rêve, la joie que ça amène, c'est en soi son accomplissement. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher plus que ça, c'est le rêve lui-même, la joie, le décret lui-même, il est l'accomplissement de la chose elle-même. Ensuite, bon, ça, c'est simplement pour revenir à cette histoire de l'impact de la chose, du décret lui-même. Je veux simplement dire, j'ai ensuite ramené un autre passage aussi, que vraiment j'aurais dû rapporter, de la Gemara dans Berachot. Cette fois-ci, c'est un peu plus long, donc je ne vais pas le dire à l'oral généralement, en entier, mais c'est-à-dire qu'il y a une Gemara dans Berachot, qui dit la chose suivante, où il y a vraiment une règle, ça veut dire que, je raconte l'histoire, et ensuite je dirai la règle qui sort de l'histoire. Rav Sheshet, c'est un auteur du Talmud qui était aveugle. Et donc la Gemara ramène qu'en fait le roi du, je sais pas de quel roi il s'agit, il est passé dans la ville, et donc tout le monde est venu accueillir le roi pour voir le roi. Et en fait, il y a un mine, ça veut dire a priori, On peut dire a priori c'est un chrétien, mais on va dire en tous les cas, à chaque fois que dans le Talmud on fait allusion à Mine, a priori c'est quelque chose, en tous les cas d'une secte apparentée, qui a dit à Afshachet, mais pourquoi est-ce que tu veux aller voir le roi alors qu'en fait tu ne vois rien? C'est-à-dire que le Talmud là-bas, il dit, c'est-à-dire que l'expression qu'il utilise, il dit, c'est normal qu'on amène les cruches pour puiser de l'eau dans le fleuve, mais toi, tu es une cruche cassée, pourquoi tu vas vers le fleuve? Alors Rav Sheshet, il lui répond, il lui dit, en fait, tu verras que moi, je comprends mieux que toi, je verrai mieux que toi. Alors il y a donc le Talmud il raconte qu'en fait donc il y a l'armée avec la première fanfare qui passe qui passe dans la ville, et donc le mine qui est avec Rav Sheshet, quand il entend ça, il dit, ah voilà, c'est sûr, avec tout le bruit, c'est sûr que maintenant le roi il est là. Et Rav Sheshet, il lui dit, non, le roi n'est pas là. Bon, alors il dit, comment tu sais? Il dit, je sais. Et regarde, c'est vrai, le roi passe là. Il y a une deuxième fanfare qui passe, qui fait beaucoup de bruit. Et le mine, il dit, ah, c'est sûr que le roi, il est dans cette fanfare-là, après cette fanfare-là. Et Rav Sheshet, il dit, non, il n'est pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Ensuite, il entend un silence, parce qu'il y a un espace. Et Rav Sheshet, il lui dit, voilà, le roi est là. Et le mine, il dit, mais comment t'as su? Alors, il lui dit, parce qu'en fait, c'est là où explique le principe qui est ramené après ça dans les livres de Chassidut, qui vraiment fait écho au livre de Tanitrum, et qui explique comme quoi il faut allonger l'idée de Tanitrum, qui dit, je veux dire, c'est Amarle Malchuta dir Ara, Ken Malchuta dir Kia. C'est-à-dire, le royaume de la terre, il est exactement institué, il fonctionne exactement de la même manière que le royaume céleste fonctionne. Or, on sait que quand Eliyahu Hanavi, il a sa vision, il a une vision aussi dans le désert du Sinaï, où Dieu lui apparaît, en fait, il y a le feu, et en plus, encore, il y a un autre feu, etc. Et à la fin, il y a un silence. Kol Yelala Dakar. Et c'est là où la Shekhina apparaît. Donc, il lui dit, voilà, donc, du fait que dans le ciel, ça veut dire que dans la royauté divine, ça fonctionne comme ça, c'est clair qu'au niveau du gouvernement aussi, ça fonctionne comme ça. Ça, c'est un passage du Talmud, c'est page 58, non pas 58a. Donc, ça explique qu'en fait, le Talmud, il fait vraiment, c'est un principe dont le Talmud s'est ramené encore à d'autres endroits. C'est ce principe qui dit, Malchut Adéara, Ken Malchut Adirkia, ça veut dire, la royauté de la terre, ça veut dire le gouvernement, la manière dont le gouvernement fonctionne, c'est de cette manière aussi que le gouvernement de Dieu fonctionne. Donc maintenant, je continue maintenant mon développement, et on peut en fait, on peut simplement continuer, même ça veut dire on peut continuer sur cette Gemara, en expliquant que quand la Gemara elle parle en fait de l'histoire du bruit de la fanfare, etc., on peut dire que justement c'est le fait même que un décret, en fait, si tu veux, que le décret ou qu'il y a quelque chose qui a été annoncé, qui fait que justement Dieu n'est pas dans la chose qui a été annoncée. Pour expliquer en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pour donner un exemple, si on reprend vraiment ces deux exemples, mais il y en a beaucoup plus dans la Bible et dans le Talmud, sur l'histoire en fait de Moïse sauvé des eaux ou du sang avec les Hébreux, etc., une sorte de décret qui s'accomplit d'une manière différente ou à moitié, etc. En fait, je vais simplement vous faire une analogie avec, par exemple, la mythologie grecque. Quand on prend, par exemple, l'histoire du mythe d'Œdipe, par exemple, ou ce qui se passe dans les mythes grecs, même dans l'Iliade, il y a aussi ça. Ça veut dire que c'est que à chaque fois, donc les parents, ils entendent un présage qui va être donné, et ils vont tout faire pour que le présage n'arrive pas. Et plus ils vont faire pour que le présage n'arrive pas, plus il arrive. En fait, tu vois, le Talmud, il propose un autre rapport, en fait, avec le, qui serait, en fait, dans la Megillat Esther, où c'est une autre dynamique par rapport à ça. C'est plutôt, en fait, plus on sait que le présage, il est là, plus on va faire pour qu'il arrive, plus il n'arrive pas. C'est-à-dire que si Pharaon, il n'avait pas ouvert sa bouche en disant, voilà, les Juifs vont être punis par le sang, en fait, Moshe, il n'aurait eu aucun argument pour sauver les Juifs après la faute du veau d'or. Mais comme Pharaon, il a dit, oui, c'est sûr qu'ils vont être punis par le sang, alors Moshe, il dit à Dieu, ah mais si c'est comme ça, tu lui donnes raison. Ah d'accord, je peux pas le faire. Et la même chose avec l'histoire du panier, ça veut dire. Et si en fait il avait laissé, peut-être, s'il n'avait pas fait le décret de lancer les enfants de jeter les enfants dans le Nil, peut-être que Moïse, sa destinée était vraiment de se noyer dans le Nil. Mais c'est parce qu'en fait il a fait quelque chose pour faire advenir le décret que le décret finalement il n'arrive pas. Et c'est exactement un peu comme ce qui se passe dans la Megillat Esther où Aman, c'est Dieu, donc Dieu, en fait, peut-être que s'il n'y avait pas eu Aman, on va dire, Ahasvéroch, il aurait voulu tuer les Juifs, et le Talmud, il semble dire des choses pareilles. Mais c'est parce que Aman, il a voulu, en fait, il a voulu donner de l'argent pour que ça arrive, il a tout fait pour que ça arrive, que finalement, c'est pas arrivé. Et ça serait vraiment l'idée de... On a ça véritablement, pour vous dire en deux mots, c'est vraiment dans les Brit Mila, si vous savez, quand on fait la Brit Mila d'un enfant, en général, surtout dans le Minhag des Ashkenaz, c'est on essaye de ne pas dire le nom de l'enfant avant qu'il soit prononcé par celui qui fait la Brit Mila, c'est-à-dire celui qui annonce le nom. On l'écrit sur un bout de papier, on le donne au celui qui va dire le nom, parce qu'on a peur que si jamais, en fait, on va dire nous le nom avant qu'il soit nommé, en fait, ça ne va pas arriver. Donc à chaque fois, on essaye de ne pas annoncer la chose. Annoncer la chose, c'est ça ce qui va faire, au contraire, que la chose ne va pas arriver. Et cette dynamique, ça expliquerait... Alors pourquoi ça serait comme ça ? Ça veut dire, je pourrais expliquer en fait de qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire pourquoi ça serait comme ça ? Et bien, sur ça, maintenant, il suffit de revenir sur le sens littéral, en fait, de la Megillat Esther. C'est-à-dire que quand on prend l'histoire de la Megillat Esther, comme, en fait, le décret, il avait été annoncé, aux Juifs, par exemple, qui devaient être exterminés, et bien automatiquement, ils font teshuvah et le décret n'arrive pas. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que, on va dire que Dieu, il fait un décret, et c'est exactement un peu ce que Rav Papa, il disait, c'est-à-dire que le rêve en lui-même, il contient son accomplissement. En fait, à chaque fois qu'il y a un décret, le décret, il a lui-même un impact. Et ce qui se passe, c'est-à-dire que le fait même que, en tout cas, l'annonce du décret a elle-même un impact. Et ce qui se passe, donc d'une manière très amusante, c'est qu'en fait, quand on réfléchit sur la temporalité en fait du rapport de Dieu avec l'homme, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'homme, il a toujours un temps d'avance sur Dieu. Parce qu'en fait, que quand Dieu, il a fait le décret, par exemple, regarde dans la Megillat Esther, Dieu, il avait fait le décret d'extermination. Ah, ok, très bien, le décret est fait. Maintenant, on est au courant du décret, on fait échouer. Mince, tu vois, le décret, il marche plus. Il faut maintenant que Dieu change le décret. Mais au fond, à partir du moment, puisqu'il y a toujours un temps, en fait, entre le moment où Dieu il fait un décret et le fait qu'il va être accompli, en fait, il se trouve que le décret de Dieu, il est toujours un temps de retard par rapport à l'homme. Ce qui serait peut-être, tu vois, aussi un lien avec la politique, parce que dans la politique, l'homme politique, il a toujours un temps de retard par rapport à la réalité. Mais c'est possible aussi qu'on voudrait dire une chose pareille, ça veut dire... Mais ce que je veux dire, et cette idée-là, en fait, qu'on trouve dans la Megillat Esther, etc., elle permettrait, en fait, d'expliquer comment, en fait, selon le Talmud, le libre-arbitre, il s'articule avec la prédestination ou avec le fait qu'il y a une prophétie qui prévoit le futur. C'est-à-dire, le fait même que la prophétie, elle a été annoncée, c'est ça ce qui va faire qu'elle ne va pas s'accomplir, ou qu'en tous les cas, elle ne va pas s'accomplir d'une manière littérale. Parce qu'une fois qu'elle a été annoncée, l'annonce a elle-même un impact, et donc elle va faire que ça ne peut plus s'accomplir tel que ça avait été prévu. Et donc la teshuvah, c'est-à-dire la teshuvah, l'action de l'homme, etc., elle peut avoir un impact malgré une prédestination. Parce que justement, il y a donc cette, à travers cette axiomatique de, en fait, c'est comme s'il y a un moment où Dieu est le roi, mais après le décret, c'est l'homme qui devient le roi. Et une fois qu'il y a un nouveau décret, Dieu redevient le roi. Mais c'est toujours comme ça, en fait, c'est une sorte de battement où ça dépend, en fait, ça veut dire qu'une fois que le décret a été fait, c'est l'homme qui redevient le roi, puisqu'en fait, le décret de Dieu, il était simplement dépendant d'une situation qui était antécédente. Je voulais dire simplement aussi... Donc, cette histoire de l'axiomatique, donc du dédoublement de Dieu, avec le Mazal, avec toute cette histoire du Satan, etc., et de la prédestination, etc., elle a donc pour possibilité, premièrement, de donner, en fait, la liberté à l'homme, mais d'un autre côté, en plus, moi je pense que c'est surtout ça l'enjeu principal, en fait, de cette idée de l'axiomatique du gardien, si on l'applique à la théologie, et qu'on peut, à mon avis, elle existe dans le Talmud, elle existe comme quelque chose, comme une sorte de, en filigrane, et peut-être de quelque chose qui a été jamais dit, ou qui a été dit simplement dans le Midrash de la Megillat Esther, pour expliquer, comme je le disais en tous les cas tout à l'heure, que peut-être la Megillat Esther, ça serait une manière dont le Talmud, il envisage, en fait, comment Dieu se révèle à travers le monde, d'une manière générale, et ça, non seulement ça permettrait, en fait, de ménager, en fait, le décret divin, la prédestination avec le libre arbitre, mais à mon avis l'enjeu principal qui est le plus dur en fait en théologie que ça permet de préserver, c'est la liberté de Dieu, puisque en fait ça veut dire que ça, c'est parce que la véritable difficulté qu'il y a dans la théologie, si vous voulez savoir, c'est pas de parler de la liberté de l'homme, c'est surtout de comprendre comment est-ce que Dieu peut être libre. Disons, encore plus, si jamais on a un Dieu qui prévoit tout dans le futur et qui dit ça et ça, ça va arriver, ça et ça, ça va arriver, ça et ça, ça va arriver. Mais à partir du moment où, en fait, il y aurait une axiomatique de savoir qui est Dieu, et il y aurait des dédoublements de Dieu, ça veut dire qu'il y aurait un Dieu qui parle et ensuite l'homme devient Dieu, etc. Donc ça retrouve, il y aurait à chaque fois une dynamique entre qui est le roi, Donc finalement, Dieu, il retrouve sa liberté. Puisqu'en fait, il est plus simplement, il est plus conditionné lui-même, en fait, à quelque chose qui est écrit d'avance. Et ça serait aussi, tu vois, une des choses, un des intérêts de cette histoire de garder l'idée de l'axiomatique du gardien au niveau théologique. Une autre chose que je voulais encore parler, c'est sur l'histoire de, du rapport entre Pourim et Kippourim. C'est-à-dire que Pourim, c'est en fait l'idée de, donc, le Pourim, ça veut dire en fait le Goral, ça veut dire le tirage au sort. Le Talmud, etc., il fait lier ça avec le jour du grand pardon, Kippour. À Kippour, en fait, on tirait au sort deux béliers qui étaient identiques. Donc, un était envoyé, en fait, comme le bouc émissaire, pour porter toutes les fautes des Juifs. Et là encore, on retrouve la même chose. Du décret, en fait, c'est-à-dire, on veut dire, il y aurait eu un décret d'extermination qui aurait dû être mis sur les Juifs. On fait, en fait, on ne peut pas annuler le décret, mais on peut le déplacer sur le bouc émissaire. Et ça reviendrait à cette même idée, encore une fois. Et à chaque fois, donc, dans le Talmud, on dit, en fait, ce bouc émissaire, c'est un cadeau qui est fait au Satan, ce qui est un truc complètement incroyable, mais là, Azazel, le Talmud, il le dit clairement, dans le Midrash, en tous les cas, c'est clair, qu'on dit que c'est un cadeau qui est fait au Satan, et des choses pareilles. Et ça revient encore à cette histoire-là, de dire, en fait, le Satan, en fait, on pourrait dire, c'est l'homme, etc., c'est les mauvaises actions de l'homme, etc., mais c'est le décret, en fait, qui a été engendré à cause de l'homme, etc., puisqu'il y aurait toujours, en fait, une dynamique où en fait, des fois, c'est l'homme qui est le roi, des fois, c'est Dieu qui est le roi. Mais on passerait. Et l'idée, en fait, de Yom Kippour, cette idée, en fait, de mettre, en fait, le décret, faire accomplir le décret sur le bouc émissaire, en fait, c'est de redonner la royauté à Dieu. Et d'enlever, en fait, tout ce qui serait venu, en fait, à cause des fautes de l'homme ou quelque chose comme ça. Et le remettre en disant, en fait, voilà, ça, c'est le Satan, mais on veut, en fait, enlever, justement, ce pouvoir néfaste qui aurait été fait, en fait, par les actions de l'homme, etc. Une autre chose, quand voilà, aussi, qu'on retrouve encore une fois pour faire un lien avec Yom Kippour, par exemple, à la fin, à la Yom Kippour, on dit toujours cette histoire-là, c'est-à-dire que dans la Ne'ilah, qui est vraiment la prière finale de Yom Kippour, qui est vraiment le moment final, que je pense, si mes souvenirs sont bons, en tous les cas, chez les Sfaradim, c'est sûr, mais je pense même chez les Ashkenazim, en tout cas, chez les Sfaradim, on répète cette fois, Le'olam Adonai Devarecha Nitzav Bashamayim. Chez les Sfaradim, on le dit, mais je pense que les Ashkenazim, avant de dire Hashem Ua Elohim, je vais en tout cas aller là, Hashem Devarecha Vashamayim, même les Ashkenazim, ils le disent pendant la Ne'ilah. Et le sens littéral, ça veut dire quoi ce verset qu'on répète sept fois à un moment justement, vraiment à la fin de Yom Kippour? La traduction des mots, c'est-à-dire tel que c'est expliqué dans Rashi, ça veut dire toujours ta parole, qu'elle reste fixée dans le ciel. Ça veut dire quoi? Est-ce que tous les commentaires, c'est les commentaires d'Abu Daham, etc., tout le monde explique que ça veut dire le décret, ok, on ne peut pas l'annuler, mais qu'il ne s'accomplisse pas, qu'il reste dans le ciel. Toujours ta parole, qu'elle reste fixée dans le ciel, ça veut dire qu'elle ne s'accomplisse jamais. Ça veut dire ce décret négatif qui aurait été fait. Et encore une fois, donc, c'est pour revenir à cette idée-là, à mon avis, donc, de cette axiomatique qui aurait entre la royauté de l'homme et la royauté de Dieu, qui serait, en fait, visible dans l'histoire de Pourim et, en fait, dans l'histoire de Yom Kippour aussi, et à mon avis aussi, en tous les cas, dans la prière de Rosh Hashanah. Je voulais encore dire une dernière chose, voilà, donc, c'est encore pour expliquer, en fait, que cette dualité, ou en tous les cas, cette axiomatique, en fait, qu'on retrouverait entre, c'est-à-dire dans la dualité qu'il y aurait chez Dieu lui-même, etc., avec le Satan, avec l'homme et compagnie, c'est pas simplement, à mon avis, c'est pas simplement encore quelque chose qui est vraiment dans un mouvement dynamique, comme je dis jusqu'à maintenant, à savoir qu'une fois qu'il y a le décret, c'est comme si Dieu fait un décret, ensuite c'est à l'homme de réagir face à ce décret, c'est à ce moment-là lui le roi, une fois qu'il a réagi, hop, ça remonte chez Dieu et c'est lui le roi, etc. Il y a une sorte de plus grande encore complexité que là-dedans. La chose suivante, là, je m'excuse d'avoir fait aucun texte, mais c'est simplement parce que j'ai peur vraiment de regarder le texte si vous voulez. Mais le dernier texte que j'ai ramené, c'est sur l'histoire de la conversion, et ce qui est très très intéressante. C'est-à-dire que quand on lit en fait le texte du Talmud dans ce qui concerne la conversion, en fait on voit que le Talmud il met pas vraiment l'emphase sur le fait d'apprendre toutes les mitzvot du judaïsme au type qui viendrait se convertir. Même, c'est marqué même le contraire explicitement. Ça veut dire, on ne lui fait pas connaître les détails comment ça fonctionne. Moi, je sais pas si j'ai ramené, mais j'ai dû ramener. Bref, je sais pas où est-ce que c'est. Ouais, c'est ça, j'arrive à mettre, c'est ça. Bon, bref, en tous les cas, dans le Talmud, en tous les cas, on lui fait pas connaître les mitzvot. Ça veut dire la difficulté des mitzvot et les mitzvot qui sont trop durs. Pour ne pas le décourager. Voilà, on le fait pas, oui, c'est ça. Donc en fait, ça donne. Ça veut dire. Ça veut dire on lui fait pas connaître. Voilà, parce qu'il y a marqué Modinoto Mixat Mitzvot Kalot Mixat Mitzvot Hamorot. Ça veut dire on lui fait connaître une partie des mitzvot importantes et une partie des mitzvot qui ne sont pas importantes. Mais en tous les cas, on ne lui dit pas tout, on n'a pas un devoir, au contraire, le Talmud ne semble pas dire qu'on doit lui apprendre toutes les mitzvot. Mais ce qu'on doit lui dire, ce qui est super intéressant, c'est que justement, ça va jamais, ça veut dire, ça ne sera jamais tout bien, ça ne sera jamais tout mal. Et sur ça, la Gemara, elle le dit explicitement. On doit lui dire, sache que les juifs, en tant que juif, tu ne seras jamais, on va dire, trop riche, ou trop bien, ni trop pauvre. Ça veut dire, en hébreu, ça donne comme ça, on lui dit, on lui dit, en fait, Israël, bismanazé, et nan yecholim le kabel, l'orof tova, ve l'orof pouranout. Ça veut dire, les bénis Israël ne peuvent pas recevoir ni trop de punition, ni trop de bénédiction. Et, regarde, la Shoah exactement, ça va être une question sur ça, d'accord, j'ai pas dit que je vais répondre sur ce que tu as mis sur l'histoire, mais l'idée part derrière, pourquoi est-ce qu'on doit dire ça aux convertis? C'est que l'idée principale, ça voudrait dire, en fait, normalement, si vous voulez les versets de la Torah, ça veut dire, voilà, je fais le bien, je suis béni, et tout ira bien pour moi. Et si je fais le mal, Shalom, le début, il est maudit, et tout va aller très mal pour lui, et il n'y aura pas de rédemption possible, il n'y aura rien. Ça veut dire, tout va très mal. Or, on lui dit, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, quoi qu'on fasse, le bien et le mal restent mélangés. Ça veut dire que le décret de Dieu, il a toujours du bien et du mal à l'intérieur de lui-même. Et vice-versa, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Tout ça, en fait, c'est pour dire que l'idée derrière, c'est pour garder justement le libre arbitre de l'homme. C'est-à-dire que si jamais, en fait, il n'y avait pas cette axiomatique de Dieu, ça veut dire que, en fait, tout était si clair, l'homme, en fait, il n'existerait pas. Il n'aurait plus de possibilité d'avoir le libre arbitre. Donc on lui dit, en fait, sache que dans quel que soit le décret qu'il soit, il y a du bien et du mal, qu'il soit bon ou mauvais, il n'y aura jamais quelque chose, un bien parfait ou un mal parfait. Et c'est très important d'expliquer. Ce qui est très incroyable, c'est que, en fait, c'était ça ce qu'on disait aux convertis. Ça veut dire plus que de lui prouver en fait l'unité de Dieu, on lui parlait en fait plutôt de l'axiomatique du gardien. Ça veut dire de l'axiomatique qu'il y avait dans les décrets divins. Et voilà, c'est une des dernières idées que je voulais dire. Peut-être après ça, oui, j'avais ramené encore le texte, hein, simplement pour dire le dernier texte que j'avais ramené, donc qui parle en fait de Shaoul, qui ramène encore cette histoire-là du fait que plus on veut qu'un décret, une fois qu'un décret a été promulgué, plus on cherche à l'accomplir ou à l'annoncer, moins il va se réaliser. Donc elle donne l'exemple, le Talmud donne plusieurs exemples. Il y a un exemple à part ça de Shaoul, le roi Shaoul, puisque justement c'est lié avec Esther, puisque le Talmud dit d'où est-ce que Shaoul il a eu le mérite d'avoir Esther qui descend de lui. Alors le Talmud, il explique, en fait, il a eu ce mérite parce que quand le prophète Samuel, il lui a annoncé qu'il a été roi, qu'il allait être roi, il l'a dit à personne. Il n'a pas dit à sa famille, il l'a dit à personne. Et du fait qu'il ne l'a pas dit, il a eu le mérite que Esther, elle est devenue reine et qu'elle a dit à personne, etc. Mais par ce mérite, du fait qu'il n'a pas justement cherché à faire accomplir le décret, c'est pour ça, en fait, qu'il a pu vraiment s'accomplir par la suite. Et le Talmud, il dit la même chose avec Rachel, en disant que pourquoi Rachel, puisque Rachel aussi, c'est d'elle que descend Shaoul et Esther. Il dit pourquoi est-ce que Rachel, elle a eu le mérite d'avoir Esther et Shaoul qui descendent d'elle? C'est parce qu'elle a fait passer sa sœur avant elle, alors que normalement, le vrai Shidour, ça veut dire la véritable femme qui aurait dû se marier avec Jacob, c'était elle. Puisque Jacob, il tombe amoureux d'elle instantanément, etc. Donc c'était son vrai zivoug. Mais c'est justement parce qu'elle n'a pas voulu que ça s'accomplisse, que ça puisse s'accomplir dans le futur. Donc il y a toujours cette idée, en fait, de repousser le décret. Ça veut dire que c'est le fait de faire repousser le décret qui va faire que le décret va s'accomplir d'une certaine manière. Aussi bizarre, donc c'est dans cette même axiomatique. C'est pour ça que j'avais ramené, en fait, ce passage du Talmud. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ou pas clair, mais en tout cas, j'arrête ici à la première intervention. Voilà, c'est tout. J'arrête.
C'est tellement riche, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas par où commencer. La première chose qui frappe, c'est que la position de RNG, c'est tout à fait différente de celle de Rav Rothschild.
Oui, non, c'est vrai qu'en fait, dans la conférence précédente, Einstein, il avait dit, en fait, on ne retrouve pas cette histoire de l'axiomatique du gardien dans la Bible, il n'y a rien du tout, blablabla. C'est vrai qu'il a dit ça, mais non, voilà, je ne sais pas s'il n'est pas, si en fait, il n'est pas d'accord pour de bon.
Vous avez pris le gardien dans un sens métaphorique.
Oui, dites-moi. Oui, non, comme dit, j'ai élargi vraiment l'idée, hein, je suis d'accord. Hein.
Toujours métaphorique, c'est une, en fait, c'est une, ce que j'ai essayé de dire, c'est que c'est une fonction.
Oui.
C'est une fonction. Alors, naturellement, il faut que je réfléchisse à ce que tout le matériau et les remarques que vous avez apportées. Ce qui me frappe, naturellement, c'est que pour qu'il y ait axiomatique, il faut qu'il y ait une relation. C'est un problème de relation. Ça, et la question que j'aurais à vous poser, c'est puisque moi je me place sur le plan politique, la relation elle est entre Dieu et le peuple. Donc c'est avec un collectif. La question du destin ou la question de Yesh Mazal ou Ein Mazal, c'est Ein Mazal l'Israël, ou Yesh Mazal l'Israël. Donc c'est la question du destin du collectif. Et beaucoup des mouvements que vous avez décrits sont liés à des situations qui sont collectives. S'il s'agit de Moïse, c'est d'office. Moïse n'est pas un individu. C'est le destin du peuple qui est engagé. Quand Moïse détruit la Ketouba, casse la Torah, et le Midrash dit, c'est comme quelqu'un qui détruit qui déchire la Ketouba pour que Dieu ne condamne pas le peuple pour son infidélité. On est de nouveau dans l'axiomatique du gardien, mais complète, parce qu'il s'agit de la relation entre Dieu et la totalité, donc et le collectif. On voit aussi, il y a beaucoup de midrashim qui utilisent l'image de la flèche qui est tirée. Et une fois que la flèche est prise, comme le décret qui est pris, la flèche elle suit son cours et personne ne peut la ramener. Or, la différence dite souvent entre un roi et Dieu, c'est que le roi ne peut pas le faire, mais Dieu peut ramener la flèche qui a été tirée, donc il peut se raviser. Alors, un autre point, c'est sur le dédoublement, qui est aussi, on voit bien que quand Moïse intercède en faveur du peuple, c'est comme si Dieu était dédoublé, puisque Dieu souvent regrette, mais il ne peut pas lui-même effectivement changer sa décision, changer son décret, et donc il agrée à ce que quelqu'un vienne en quelque sorte modifier sa décision. Il éprouve un soulagement, ou qu'il dit que c'était la bonne décision de l'avoir contredit. Donc on a des tas de situations, mais toutes ces situations, de ce que moi je connais, c'est-à-dire peu, concernent le collectif, et donc c'est pour ça que je les appelle politiques. Parce que même les mitzvot, c'est une question collective, c'est pas une question individuelle. Alors, voilà, c'est là-dessus que j'aurais voulu avoir naturellement, je sais bien que les commentaires, avec la modernité politique, a eu tendance à personnaliser ou à en quelque sorte à s'adresser à une subjectivité de chaque individu. Mais est-ce que c'est vraiment la question centrale qui est traitée dans le Talmud, ou c'est en réalité l'individu en tant qu'il participe, sa participation est engagée dans le groupe, et que le destin est bien celui de Klal Israël ou de Kol Israël?
Il parle d'une mazal vraiment d'une manière individuelle, puisqu'il dit celui jadin celui qui est ce jour-là, qui n'est ce jour-là, qui n'est ce jour-là. Même le deuxième passage du Talmud, quand il parle justement de Bener Hayom Zone, l'Abbe, le Scrutatalia Milta, c'est-à-dire la longévité, le nombre d'enfants, etc., et l'argent ne sont pas liés par, dans le mérite, mais par le mazal, encore on est dans l'idée de l'individu. C'est-à-dire, simplement pour dire encore, à titre de conscience, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, c'est-à-dire, par exemple le Maharsha, d'autres commentateurs sur ces histoires du Mazal, ils vont un peu donner une idée, ça a été aussi une doxa, ça veut dire, voilà, c'est donné dans les Rishonim, c'est-à-dire les auteurs du Moyen-Âge, cette manière de dire qu'en fait, pour établir en fait cette contradiction qu'il y a entre justement l'histoire du Mazal et du déterminisme qu'il y a dans le Talmud, ils vont vouloir dire à chaque fois, on va dire, en fait, il y a le libre arbitre, et à chaque fois ils vont dire le problème, l'idée est vraiment contraire, ils vont dire, ce qui est très bizarre en fait, mais ils disent tous, il y a un déterminisme, en fait, au niveau de l'individu, mais il y aurait en fait, la destinée de la collectivité, elle dépendrait du libre arbitre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Pourquoi ils disent ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui leur permet de dire ça? C'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'on voit que la Torah, elle donne une récompense pour des bonnes actions, elle parle au pluriel. Elle parle jamais au singulier. Alors que justement, les histoires du Talmud qui parlent du Mazal, ils sont plutôt, ça parler en fait d'une personne au singulier. Donc, il y a cette manière-là, ça veut dire qu'il existe dans les commentateurs qui ont voulu aller dans cette direction. Ben, ça c'est un qu'il faut parler sur l'histoire du Mazal et du déterminisme, etc. Maintenant, est-ce que vous avez dit sur l'histoire, est-ce que la mitzvah, c'est quelque chose qui est en fait, c'est-à-dire qui s'adresse à la communauté, ou bien c'est quelque chose qui s'adresse à l'individu? Et encore, c'est très compliqué. Ça veut dire, c'est dans le Talmud, honnêtement, dans le Talmud, on ne pourrait pas apporter vraiment de preuves réellement là-dedans. Moi, c'est compliqué, ça veut dire que c'est discutable. Mais pour dire en fait la chose en deux mots, ça veut dire qu'il y a deux penseurs en fait. Ça veut dire où on voit qu'en fait c'était en filigrane, c'était ça vraiment qui a été vraiment le grand point de démarcation qu'on pourrait citer, c'est Maïmonide d'un côté et Rashi de l'autre. C'est-à-dire que Maïmonide, en fait, c'est clair que lui, quand il écrit le Yad HaHazaka, et quand il parle en fait des lois telles qu'elles sont éditées, etc., lui, il pense qu'en fait la loi, elle n'est pas adressée à l'individu, elle est adressée au législateur. C'est comme si un grand législateur ou à la société. La manière la plus simple de comprendre ça, c'est quand il dit en fait la première mitzvah de la Torah, c'est d'avoir la foi. Tous les commentateurs lui demandent, mais comment c'est possible de demander à quelqu'un d'avoir la foi, soit il a la foi, soit il l'a pas, et comment ça peut marcher, tatatitata. Tout le monde vient avec des réponses compliquées, en fait. C'est surtout les auteurs ashkenaz, pour dire en fait la vérité de ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que pendant tout le Moyen-Âge, les séfarades, ils ont toujours eu une vision, en fait, où, en fait, la loi, elle est imposée de l'extérieur, et elle s'adresse à la communauté. Alors que les Ashkenazim, ils ont développé en fait, au contraire, une vision du judaïsme où la loi, elle parle en fait à l'individu. Je vais pas essayer de m'allonger tellement dessus parce que c'est très large, mais en grosso modo, c'est ça ce qui s'est passé. Enfin, pour expliquer cet exemple, je vais donner un exemple pour Maïmonide, je vais donner un autre exemple ensuite pour parler des auteurs Ashkenaz, de Tosfot par exemple, ou du Maharal de Prague. Mais c'est-à-dire qu'en fait, pour Maïmonide, voilà, quand il compte la mitzvah de la Emouna, la raison, qu'est-ce qui lui permet en fait de compter la mitzvah de la Emouna comme étant une mitzvah, c'est parce qu'en fait, pour lui, la loi, elle s'adresse en fait au législateur, on veut dire à la communauté, au collectif. Et tout le livre, il est écrit comme ça, d'une manière impersonnelle, de cette manière. Maintenant, quand on regarde, par exemple, tu vois, pour expliquer même la manière même dont, on va dire, c'est pour ça que j'ai voulu citer Rashi, parce qu'à mon avis, la base de toute l'opposition, elle découle avant d'arriver chez les Tosfot et chez le Maharal de Prague, elle commence déjà chez Rashi, dans la manière dont il a de regarder le texte. Et d'expliquer le Talmud, par exemple. À chaque fois, dans Rashi, il va toujours regarder le texte d'une manière subjective. Voilà, c'est-à-dire, c'est toujours comme ça, quand même. Même dans la manière dont il veut expliquer les choses, il va toujours essayer d'expliquer, de donner un exemple de la vie pratique de son époque pour expliquer le Talmud. Donc, par exemple, pour donner il y a encore plein d'autres syndromes de ça. Par exemple, Rashi, je ne sais pas combien de fois dans le Talmud et dans son commentaire, il est dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. peut-être c'est 200 fois, 195 fois, Rabbi Akiva Gaï, il a fait le calcul, c'est un nombre incalculable. Maïmonide, au contraire, à chaque fois qu'il y a un doute dans le Talmud, il va dire non, c'est ça la loi. Parce que pour lui, en fait, il essaye de gommer l'aspect subjectif. Et c'est-à-dire que quand, par exemple, Maïmonide, il dit à son fils, il écrit une lettre à son fils, lui déconseillant de lire les livres des Tosfot. Mais il ne dit pas parce qu'en fait ce qu'ils disent c'est faux, mais c'est parce qu'ils disent en fait c'est trop subjectif et ça n'arrive pas à une conclusion déterminée. Alors que les rabbanim ashkenaz, c'est-à-dire on le sait, on va dire, c'est très compliqué en fait, mais c'est-à-dire que les rabbanim ashkenaz qu'ils ont critiqué, on va dire, sur Maïmonide, c'est justement le fait qu'il ne laissait pas la place à la discussion justement il avait fermé des choses que le Talmud avait voulu laisser ouvertes. Et c'est pour ça que, sinon c'est peut-être déjà plus postérieur, mais le Maharal de Prague, qui est vraiment dans la lignée de Tosfot, c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans les auteurs, en filigrane chez tous les auteurs ashkénazes du Moyen-Âge, et il va s'opposer à tout le système en disant, même si, c'est-à-dire, il reconnaît la valeur du livre, etc., mais il va dire, en fait, si Maïmonide, il savait ce qu'on allait faire de son livre, c'est-à-dire d'en faire un livre de loi, jamais il l'aurait écrit comme ça dit, puisque la loi, elle doit être ouverte au dialogue, elle doit être surtout apprise par l'expérience. Ça veut dire l'idée que les Balatosfot, c'est-à-dire que dans les Shivot Ashkenaz, les Balatosfot, ils avaient en France, jusqu'en Allemagne, etc., et qu'ils ont conservé, en tous les cas, jusqu'à la Shoah, c'est de dire, en fait, on apprend par l'expérience, et comme dit l'histoire de la halakha, comme il dit le Maharal, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui est en constant mouvement, et on apprend en se trompant, il n'y a pas de conclusion finie, on reste dans un système où en fait on est dans le subjectif, et on apprend par son expérience personnelle. Donc en fait, dans toute cette généalogie, en fait, qui commence par Rashi, qui passe par les Balai Tosfot et qui va jusqu'au Maharal de Prague, etc. À mon avis, en fait, eux, ils ont une lecture en tous les cas de la Torah, de la loi, qui s'adresse vraiment à l'individu et qui est vraiment subjectif, qui est pas vraiment, il n'y a pas de volonté, en fait, de dire que la loi elle s'adresse à la communauté d'une manière principale. Même chez Rashi, on ne sait pas vraiment si ça s'adresse même uniquement aux Juifs. Puisqu'il y a vraiment, ça veut dire quand il donne des traductions, quand il avec les sources qu'il cite, etc., sont pas toutes juives. Donc en fait, c'est pas vraiment même clairement que ça s'adresserait qu'aux juifs. Mais donc il y a tout ce système là, etc. Mais chez Maïmonide, on a vraiment l'impression, ça paraît assez clairement, en tout cas chez Maïmonide, que ça s'adresse à la communauté. Il avait parlé en fait sur l'histoire du Shulchan Aruch en disant que. En fait, je vais simplement rajouter de l'eau au moulin de Rav Weinstein sur l'histoire de la relation qu'il a avec la halakha et le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que pour expliquer l'idée, c'est que normalement, dans le Talmud, la halakha, elle n'est pas fixée d'une certaine manière. La conclusion, elle n'est pas claire. Et en fait, même à travers les siècles, les discussions, elles ont toujours été ouvertes, on va dire. Il n'y avait pas, en fait, de conclusion définitive qui devait être suivie par tout le monde. C'est-à-dire, Maïmonide a été le premier, on va dire, à proposer, enfin dire, une œuvre qui fermait, qui posait des conclusions et qui justement, pour lui, son but c'était justement de réunifier le peuple. Et ça a été suivi ensuite par le Rav Yosef Karo quand il a fait le Shulchan Aruch. Pour expliquer en fait de la manière dont ça procède toute cette histoire-là de réunification successive, c'est-à-dire qu'il avait déjà commencé par le fait que Rabbi Yehuda Hanassi a écrit les Mishnayot lors de la destruction du Temple, c'est qu'en fait, plus le peuple y part en exil, ça veut dire plus il y a un éparpillement, plus il y a un éclatement, plus on a besoin de le réunir à travers la loi. C'est-à-dire, tant que le temple existait, chaque ville, elle suivait son rabbin, et il y avait des différences notoires entre les différentes villes et les différents rabbins. Et en fait, et tous les avis étaient reconnus, et on n'avait pas besoin de réunifier en fait la halakha du fait que l'unité du peuple, elle était en fait pourvue par le pèlerinage au temple 3 fois par an. Une fois que le temple a été détruit, il a fallu réunifier le peuple par quelque chose d'autre. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, il a dû compiler les Mishnayot et prendre des décisions par rapport à ça. Dire, en fait, je fais cet Mishnah, je choisis cet avis-là comme étant l'avis principal. Ces autres avis, je les rapporte comme des avis secondaires. Mais voilà, donc c'est que des avis secondaires, donc je ne les rapporte pas du tout. Ensuite, quand il y a eu les Juifs ont été jetés d'Espagne, en fait, que ce soit par, on dit Rabbi Yosef Karo, c'est à ce moment-là que le Shulchan Aruch, en fait, il s'est imposé, c'est parce qu'en fait, il y avait eu un nouvel éclatement. La même chose, le Rama chez les Ashkenazim, il s'est imposé parce qu'en fait, il y avait eu un nouvel éclatement, parce que justement, la communauté ashkenaze s'était encore éparpillée dans l'espace. Donc il fallait en fait, pour réunifier le peuple, pour lui donner justement une cohésion, refermer le débat. Et c'est donc, mais pour dire la chose, simplement pour dire, d'une manière technique, pour expliquer comment ça fonctionne, le rapport à la halakha, après le Shulchan Aruch, etc. C'est-à-dire qu'en fait... C'est-à-dire que les codificateurs de la halakha, ce qu'ils ont fait, ils ont donné la halakha, c'est-à-dire dans le cas standard. C'est ça ce qu'ils ont voulu dire. Ils ont voulu dire, dans une situation idéale, où tout est réuni, c'est ça et ça qu'on doit suivre, etc. Mais le Rav, il a quand même la possibilité, dans un cas, c'est pas la peine qu'il écrive dans un livre, ou qu'il le publie, etc. Mais s'il y a une question qui est demandée dans un cas donné d'une manière exceptionnelle, il peut, en fait, si tu veux, il peut se détourner, en fait, de la décision du Shulchan Aruch pour prendre une tangente à côté. Mais bon, voilà, mais c'est pas voilà, c'est ce que je pensais à votre question. Voilà.
Ouais. Question de Jean-Michel Sanskier.
Un peu comme l'islam et le christianisme. C'est-à-dire que dans l'islam, la loi elle s'applique au pouvoir et dans le christianisme, la loi elle s'applique à l'individu. Donc c'est quelque chose qui entre Ashkenaz et Sepharad, en fait, ça vient en fait des pays dans lesquels ils ont grandi. Voilà, c'est ce que j'ai terminé.
Oui, moi ce que j'ai à dire, c'est juste de l'ordre de l'écoute et je voulais partager avec vous le fait que j'ai entendu une structure de trois moments dans ce qui a été exposé. Il y a un premier moment où ce qui est présenté comme le problème, moi je dirais que c'est le problème de la transcendance et de ses tenants-lieux. Moi j'aime pas le langage théologique, donc j'aime mieux utiliser le concept de transcendance, l'idée de quelque chose qui est vraiment hors champ, qui est irrécupérable par aucune référence, aucune conceptualisation, etc. Et bon, il est question de la transcendance dans la tradition juive, mais en même temps, il y a une conscience de ce qu'il y a des choses qui vont venir à la place. Bon, et on peut imaginer des tas d'exemplifications de ça, et par exemple dans le livre de Dany, ça donne le roi des rois et le roi empirique. Bon. Donc le premier moment de l'exposé, il est centré là-dessus, et donc c'est la question, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que dans la prière, il se passe quelque chose qui est l'unification avec le transcendant, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui se réfute lui-même, l'unification avec le transcendant, c'est une injure à la notion même de transcendance. Bon. Donc ça, c'est le premier moment. Et ensuite, il y a un deuxième moment où j'ai l'impression que ce qui devient la vedette dans votre intervention, c'est l'idée du décret auto-conjuratoire. C'est le décret qui se conjure lui-même. Et donc, vous exhibez cette structure dans plusieurs cas. Et vous suggérez même que ce serait lié à la temporalité même du politique, que le politique, il est lié à l'idée qu'il y a des mesures qui sont prises, mais on est dans une temporalité ouverte, c'est-à-dire que la situation peut démentir la mesure qui a été prise, elle peut susciter, par exemple, une protestation, ou encore simplement, même, c'est la logique de l'observance de la mesure qui a été prise qui finalement inverse complètement le monde et force le monde à rejeter la mesure qui avait été émise. Donc ce serait la temporalité du politique. Alors l'idée de rattacher... Bon, mais cette idée d'un énoncé autoconjuratoire, c'est proche de toute la problématique de philosophie du langage, qui est celle de la self-réfutation, toute la tension de la philosophie du langage contemporaine à ce qu'on appelle la dimension pragmatique, c'est-à-dire que du fait même qu'un énoncé a été émis, il s'est passé quelque chose. Et donc... Par l'émission même de l'énoncé, il est ajouté un élément à l'ensemble de la situation et ça peut tout détraquer. Alors, l'idée de relier la politique à cette structure-là, le fait que l'énonciation elle-même ajoute à la totalité et donc met en crise la totalité, mon maître de philosophie, Jean-François Lyotard, a insisté énormément sur cette idée et il allait chercher chez les Grecs des exemples en or de ça. Et pour lui, le meilleur exemple, et je voulais vous le raconter, c'est l'exemple de Atlos et de Protagoras. C'est Atlos qui a subi les cours de Protagoras, qui était son maître, et qui devait lui enseigner à triompher dans les débats juridiques, dans des procès à Athènes. Et Atlos, au bout d'un certain temps, vient voir Protagoras et lui dit « J'ai perdu tous les débats dans lesquels j'étais engagé. » Donc tu ne m'as pas enseigné correctement, donc tu dois me rembourser l'argent que je t'ai donné. Et Protagoras lui répond, ce qui passe entre nous maintenant est un débat, soit je gagne et je ne te dois rien puisque j'ai gagné, soit tu gagnes et je ne te dois rien puisque tu as gagné, je t'ai formé. Donc oui, c'est un exemple qui montre bien que le fait d'inclure ce qui est en train d'être énoncé dans la totalité qu'on est en train de considérer, ça déplace le résultat, ici un résultat interpersonnel et économique, mais dans l'idée de Lyotard, c'était la temporalité même du politique qui était illustrée par cet exemple. Voilà le deuxième moment de l'exposé. Et dans le troisième moment, moi ce que j'ai entendu comme dominant, c'était l'idée que cette espèce de structure qui ouvre une temporalité, un jeu, on a d'abord dit que c'était le politique, mais dans un deuxième temps, ce que vous êtes en train de soutenir, c'est que ça donne sa liberté maximale au partenaire. Du fait qu'il y a cette ouverture du jeu, les humains trouvent leur liberté, qui est de faire tourner l'énonciation en leur faveur, et Dieu trouve sa liberté, puisque tout décret qu'il aura émis, il peut avoir la parole une fois de plus, puisque éventuellement ça va se casser la gueule. Donc voilà, ça serait la... Alors évidemment, ça on peut... Je suis plus gêné pour raconter cette histoire-là parce que on ne peut pas la raconter de façon non théologique, apparemment. Et moi, je voudrais pouvoir raconter tout de manière non théologique. Donc du point... Si on a le concept strict de la transcendance, la liberté de la transcendance, it doesn't make sense.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, vraiment. C'est vrai que si on enlève la théologie, c'est une approche théologique, comme le Talmud, c'est un livre de théologie, voilà. Et c'est vrai que si on veut vraiment comprendre la transcendance, etc., sans théologie, c'est très compliqué. J'ai pas de choses à dire. Voilà ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai. Vraiment, merci pour cette histoire. Il y a d'autres questions.
Merci pour le début de votre conférence. Donc, je trouvais ça vraiment extrêmement intéressant. Puis je vais reprendre les dernières réflexions de M. Salansky sur le déterminisme et liberté. Et c'est une question très, très simple, mais parce que j'ai l'impression que c'est assez révolutionnaire du point de vue de l'histoire des religions même. Est-ce que dans ce que vous avez décrit vis-à-vis des modifications des décrets de Dieu qui étaient à la liberté ou à la charge de l'homme, on a l'impression, est-ce que Dieu crée l'homme et d'une certaine manière il a un pouvoir sur l'homme de gouvernement transcendant, mais dans cette modification de décret, on a l'impression que ce qui se passe c'est que finalement c'est l'homme qui donne sa liberté à Dieu. Est-ce que c'est donc votre thèse? Est-ce que c'est ce renversement là qui est...
Oui, c'est un peu moins, c'est-à-dire un peu pour reprendre la liberté à Dieu, elle est très bien, c'est-à-dire la création, c'est un peu pour... En fait, s'il y a un seul créateur, il dit en fait c'est sûr que le monde ne peut pas être parfait. Parce qu'en fait, c'est une idée morale, il dit parce que puisque Dieu il est le seul à être parfait, et quand il crée quelque chose qui est moins parfait que lui, donc en fait le fait qu'il y a un seul Dieu, ça veut dire que le monde n'est pas parfait, et que ce que Dieu attend de l'homme, c'est qu'il devienne un deuxième Dieu qui va parfaire le monde. Donc en fait, dans cette idée, c'est à peu près ça. Ça veut dire que c'est vrai qu'on rend la liberté à Dieu à travers nos actions. Enfin, ça veut dire dans le monde, en tous les cas, à travers le monde. C'est-à-dire, Dieu, il serait sûrement libre si on le considère à l'extérieur de l'univers, on va dire. Mais dans la relation au monde, a priori, c'est l'homme qui rend sa liberté à Dieu par ses actions, on va dire.
Une question qui concernait le bruit de la fanfare de la venue du roi. Ça m'intéresse beaucoup parce que si mes souvenirs sont bons, C'est une mitzvah d'aller vers le roi. C'est ça, hein, c'est ça.
Okay.
Alors, la question que je me pose, c'est, alors, d'abord, quel est le sens de cette mitzvah? Alors, aller vers le roi, qui semble en contradiction avec, pas la Mishnah qui dit tiens-toi, éloigné du pouvoir, etc. Là, on dit clairement, c'est une mitzvah d'aller vers le roi. Alors, comment est-ce que vous comprenez le sens de cette...
Mais simplement, je vais le dire quand même, parce que c'est-à-dire que la manière dont en fait on explique le Talmud, c'est qu'en fait on doit dire des choses qu'on ne comprend pas soi-même, parce que c'est ça le sens du commentaire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Et l'idée d'ailleurs, c'est comme ça, c'est que quand le Talmud dit, donc c'est justement, il donne, pour être honnête, il y a deux raisons. Il y a une raison assez simple. Une raison assez simple qui est ramenée dans le Talmud, c'est simplement de dire qu'en fait il faut aller voir le roi quand c'est un roi non juif pour pouvoir le critiquer, on va dire, pas le critiquer ouvertement, mais c'est pour qu'on prenne nous-mêmes une morale pour savoir que lorsque nous on va faire notre propre état et qu'on aura le Mashiach, à quoi le Mashiach ne doit pas ressembler. Dans le sens, c'est ça ce que le Talmud dit explicitement. Il dit là-bas, il dit, il faut aller voir le roi pour que tu vois la différence entre qu'est-ce que c'est le roi et qu'est-ce que c'est le Mashiach. Ça veut dire, en fait, tu penses en contre. Ça veut dire, tu vois les défauts, en fait, d'un système, et à cause de ça, en analysant tous les systèmes qui existent, c'est comme ça que tu vas pouvoir comprendre le bon système. Ça, c'est la première raison qui est donnée dans le Talmud, explicitement. La deuxième raison, c'est celle qui est amenée dans le passage que j'ai dit, qui est beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus difficile à comprendre, où il dit à Sheshet, en fait, que le gouvernement céleste fonctionne comme le gouvernement terrestre, ou à son image. Ce qui est très bizarre, comme je vous ai dit, a priori, ça ferait en fait allusion à cette histoire-là, de voir qu'en fait, Dieu, en fait, il intervient à travers le gouvernement. Il y aurait le passage exactement de l'axiomatique du gardien, etc. Maintenant, c'est-à-dire où, en fait, c'est, finalement, ça devient le gouvernement terrestre qui devient en fait l'expression de la volonté divine, quelque part. Maintenant, mais disons que si on veut donner le sens normal, littéral, ça veut dire avant l'axiomatique du gardien, comment est-ce qu'on expliquait ça? C'est que quand on regarde dans le Talmud, on voit à chaque fois que le Talmud, il essaye à chaque fois de calquer, en fait, la manière dont le gouvernement divin fonctionne par rapport à la manière dont le gouvernement dans lequel il vivait, il fonctionne. Maintenant, on nous parle toujours de la Pamalia Shelmala, ça veut dire de la famille divine, et du conseil, etc. Et à chaque fois, en fait, le conseil et la Pamalia et compagnie, ils fonctionnent dans le Midrash, exactement comme le gouvernement dans lequel ils habitaient, ils fonctionnaient. Selon ça, ça voudrait dire en réalité que si jamais, en fait, on est dans une démocratie, en fait, Dieu, son système d'intervention à travers le monde, si jamais on ne le prend pas encore dans votre lecture, mais on le prendra dans une lecture plus large, qui est le sens littéral du Talmud, encore une fois, j'en sais rien, je connais pas les anges, je sais pas comment les anges fonctionnent, je sais pas comment les mazalot fonctionnent, je sais pas, mais ils fonctionneraient en démocratie. Si, par exemple, on habite dans une monarchie, en fait, Dieu, il intervient dans ce pays, à travers les anges, et blablabla, et les mazalot, et ce qu'on veut, comme un monarque. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais c'est ça, le sens littéral du Talmud, avant votre livre. Après votre livre, on peut l'interpréter comme vous voulez. Ce qui est plus simple, à mon ami, enfin, qui make more sense, même si ça make pas de sens, c'est un peu plus de sens. Et moi, si vous voulez mon interprétation personnelle à moi, c'est autre chose. Moi, j'aurais dit un truc plus terre à terre. Et vraiment, ça c'est mon interprétation personnelle, je sais que ça va pas faire plaisir du tout en France, ni rien, mais bon, mais je le dis quand même, parce que j'ai le droit de dire ce que je pense pour une fois. Et tout le reste, comme elle dit, c'est des choses que je pense pas, c'est vraiment des choses que je pense. C'est qu'à mon avis, il y a vraiment un lien entre la royauté et le rapport en fait au divin. C'est-à-dire que en fait c'est difficile, ça veut dire c'est très difficile à expliquer ça en France où il y a eu la Révolution française, etc. En fait, on dit ah voilà tout ce qui est royal, c'est vraiment c'est quelque chose de mauvais, etc., etc. Il faut de la démocratie, il faut que tout le monde soit égal, etc. Mais dans la royauté, dans le rapport à la royauté, à la monarchie, à la majesté, on va dire, pour utiliser le mot majesté, puisque Dieu il appelle toujours un Meller. On va voir Rosh Hashanah, on dit toujours un Meller, tous ces trucs-là. En fait, même le fait de sonner le chauffard, c'est aussi lié parce qu'on sonnait le chauffard devant le roi. Donc il y a quelque chose à travers de la royauté qui est à prendre dans le rapport au divin, même dans le rapport même, on va dire, à l'existence quelque part. Il y a un rave qui disait pourquoi est-ce que Moshe, il a grandi comme roi, comme prince en Égypte.
Et en fait, Zohar avait une idée, vous savez, parce que moi j'aime pas ce qu'il dit, c'est pour ça que je cite pas ce qu'il dit, mais là, pour le coup, enfin voilà, j'emprunte. C'est qu'il disait, en fait, oui, pour avoir une relation au divin, il fallait avoir une relation à la royauté. Il faut avoir grandi dans la cour d'un roi pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une relation avec Dieu, quelque part. Ou même une relation avec les choses. En fait, il y a quelque chose de la majesté dans l'univers, il y a de la majesté dans le monde, et le rapport à Dieu, ou le rapport à la religion, ou le rapport à l'autre, il passe par rapport à son rapport à la majesté. Moi, c'est comme ça que j'aurais, en fait, expliqué ces passages de la Gemara, bien que c'est un peu loin des mots, etc. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
Ça passe difficilement à Paris, mais est-ce à New York, est-ce que ça
passe? Non, parce que, c'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre l'idée de la majesté comme quelque chose de beaucoup plus, comment dire, c'est pas le château de Versailles, c'est-à-dire justement, le château de Versailles, c'est minable. Par rapport, en fait, à celui qui va aider un pauvre ou quelque chose comme ça, il y a plus de majesté là-dedans, mais il y a un rapport de majesté avec ça. Je pense que si jamais on perd ce rapport à la majesté, que ce soit un rapport de majesté à la morale, un rapport de majesté aux choses ou à l'autre, etc., ou la manière d'envisager la vie, en fait, on perd énormément, en fait, de... Voilà, on pourrait même dire, en tous les cas, on perd une dimension, en tous les cas, du rapport au divin, certainement, tu vois. Et à mon avis, le Talmud, c'est ça aussi ce qu'il a voulu dire en disant qu'il faut aller voir la majesté qu'il y a dans les cours royales. Parce que, en fait, c'est pour ça qu'il compare toujours l'homme et il va se présenter devant le roi, il fait partie d'une cour royale, une chose comme ça. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose, c'est mon interprétation personnelle, vas-y, pour une fois, je dis ce que je pense. J'ai pas dit que non, c'est bon. C'est normal. Ça m'a pas. Enfin, voilà, c'est le cas. Mais bon, en tout cas, sinon, il faudra arriver à cette histoire comme vous avez dit. Le sens littéral du Talmud, c'est veut dire en fait qu'il envisage le fait la manière dont Dieu intervient dans le monde, c'est connecté en fait par rapport à la manière dont le système politique d'une société fonctionne. Peu importe ce que ça veut dire. Voilà. Je n'ai pas plus à dire, je ne pourrais pas aller plus loin.
Je propose que nous prenions une petite pause de 5 minutes, pas plus, pour exploiter la dernière partie de
Oui.
Ce qu'a ressenti, ce qu'a dit Jean-Michel Sarnowski. Moi, j'ai été de la transcendance. Il se trouve qu'on a assisté à une opération de démystification massive de la transcendance, aussi bien concernant la halakha que l'histoire juive. Et en particulier, justement, sur le fait qu'il y a du décret, et ça, le décret, on n'a pas besoin de croire à la transcendance pour vivre l'expérience du décret, parce que toutes les enquêtes sociologiques, lorsqu'on doit faire une élection, etc., il y a des décrets, on nous annonce qu'un tel va être élu, donc le décret, ça existe. Mais en revanche, le fait qu'on peut jouer, on peut travailler avec avec le décret, effectivement, là, il y a une action politique, une action de l'homme, et donc on voit même qu'on peut le renverser. Ça, c'est très intéressant, je trouve, pour délimiter le champ du politique. Ça, c'est un premier aspect. Un autre aspect, c'est le renversement, c'est-à-dire qu'on parle toujours de la liberté de l'homme, le déterminisme, etc. Or là, on comprend très bien, mais d'une manière logique, comment, si l'homme change le décret, c'est-à-dire s'il agit pour modifier la situation qui a produit le décret, eh bien, non seulement il se rend libre lui, mais il rend Dieu libre, en effet. Et alors là, c'est effectivement tout à fait passionnant de voir que c'est l'homme qui détient dans ses mains la liberté de Dieu. C'est vraiment un renversement. Bon, ça c'est le deuxième point. Troisième point aussi, concernant l'annonce, hein, les effets d'annonce liés au décret. Il y a un temps, vous avez insisté sur le temps du silence. Et c'est vrai qu'on le retrouve chez Esther, on le retrouve chez Shaoul. Ce temps du silence, ça, je crois que c'est un moment juif. je le sens comme ça, mais peut-être que ça serait expliqué, parce que effectivement, les effets de décret, oui, mais ce temps, ce travail dans le silence, c'est vraiment quelque chose de bon. Et il y avait autre chose que je... Oui, mais justement. Un autre. Il y a deux autres points que je voulais signaler par rapport à la conversion, ce que vous avez signalé aussi, c'est complètement, ça démystifie complètement, parce qu'on ne demande pas, donc suivant ce que vous nous indiquez, aux convertis d'adhérer de manière militante au judaïsme, on lui demande au contraire du discernement, puisque le bien et le mal sont mélangés, de l'esprit critique, de la vigilance, donc le contraire absolu d'une adhésion comme on la voit dans, par exemple en politique. Donc, et alors, il y a un point, moi, qui m'a fait question, mais évidemment, je pense qu'on n'aura évidemment pas le temps de traiter, c'est la question que dans le dédoublement, le premier dédoublement, c'est le Satan. Et ça, vraiment, dans des événements majeurs, catastrophiques, comme on en a pu voir dans l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui interroge. Mais bon, c'est, voilà, c'est vraiment ce point-là qui, moi, m'a fait vraiment question.
C'est vraiment pas c'est difficile, mais c'est vrai que c'est très difficile. C'est-à-dire que comme on va dire, on se rapproche des fêtes de Tishri, etc. Moi, je m'excuse de faire mon travail, mais c'est vrai qu'en réalité, c'est vrai qu'on c'est difficile d'envisager en fait la signification en fait des textes liturgiques de Rosh Hashanah et de Yom Kippour si on veut faire abstraction du Satan. Non, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Pourquoi? Etc. C'est vraiment c'est compliqué. Hein, c'est vraiment compliqué. Mais j'ai pas envie d'entrer là-dedans. C'est pas comme vous voulez pour la pause.
Vous n'avez pas de manger, de boire, de café,
de rien,
du thé.
Et la pause.
C'est un plus de pause. Oui, c'est un
plus de pause. Enfin, prolongation. Moi, je vais fermer le travail quand c'est un silence, mais c'est vrai. Et on a, mais le milieu il est très court, hein, mon ami. C'est vrai qu'on a les deux parce que c'est le plus long. Je sais rien. Maintenant que tu vois, le deuxième c'est vraiment le truc de. C'est vraiment le seul. Non, j'ai pas reçu le texte du deuxième. Et t'as pas. Alexandre, t'as pas imprimé le texte pour le deuxième cours, pour la deuxième partie. Le texte pour la deuxième partie, j'ai pas.
J'ai la deuxième, mais j'ai pas la troisième. Mon imprimante m'a lâché.
Ok, la deuxième, j'ai. Ah, ouais, bien sûr. Ah, ok. C'est Thank you.